Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Écran Local. Alors aujourd'hui, on reçoit notre premier producteur. Il s'appelle Mathieu Rollin. Il est directeur de la société Amopix à Strasbourg et il vient nous raconter son histoire. Entre animation, production, festival du film fantastique de Strasbourg, mais aussi Roger Rabbit, croyez-moi, cette discussion passionnante vaut le détour. Alors c'est parti.
Écran Local, le podcast qui donne la parole au cinéma de votre région sur Top Music.
On n'est pas bien, paisible.
J'aime me beurrer la biscotte.
Ça, c'est moi que tu parles, là ?
Par Lily Laura de Villers.
Bonjour Mathieu, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode de Écran Local. Vous êtes donc producteur chez Amopix. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre société et surtout expliquer aux auditeurs qu'est-ce qu'un producteur ?
Alors avant tout, merci de me recevoir. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Top Music. Alors mon métier de producteur, on a tendance à coller au producteur l'image, la vieille image hollywoodienne du gars assis dans sa chaise avec son nom derrière et un grand cigare. Alors j'en connais quelques-uns effectivement qui sont comme ça, mais l'image du producteur concrètement, c'est l'image d'une personne qui dialogue avec un auteur, ou une auteure évidemment, et qui va essayer de faire en sorte que son film devienne réalité. Parce qu'évidemment, tout part d'une feuille blanche avec un petit bout d'idée et qu'on va venir, ou qu'un auteur va venir nous soumettre. Et ce sur quoi on va décider un petit peu de faire un pari. En disant, ok, j'y crois pas, mais il faudrait revoir des axes narratifs, il faudrait... plus travailler des personnages, plus travailler la psychologie des personnages. Alors évidemment, tout dépend de ce qu'on décide de produire comme type de programme, parce que en gros, un producteur peut produire du court-métrage, peut produire du long-métrage, peut produire des séries, on peut produire tout un tas de choses. Maintenant, nous, au niveau d'Amopix, on a un studio qui a maintenant 18 ans, depuis le mois de mars dernier, que j'ai créé en 2002, donc, quand j'avais 21 ans, et avec la volonté de faire, il y a 18 ans, des projets de motion design. Donc c'était vraiment faire bouger les graphismes. Et puis au fur et à mesure, mon métier a évolué, j'ai eu de plus en plus envie d'aller vers des développements de projets, faire mes propres choix vers des projets que j'avais envie de faire en court-métrage ou d'ailleurs de participer à des longs-métrages. Et au fur et à mesure, on en est venu à produire des auteurs. Et alors notre métier spécifiquement, et ça je parle d'un point de vue technique, là c'est un petit peu la partie artistique de notre métier, c'est-à-dire l'accompagnement de l'auteur, mais la partie technique de notre métier, c'est de trouver des financements. Donc le producteur, c'est la personne qui va réussir à séduire, à monter des dossiers, qui vont réussir à séduire des comités de sélection qui sont souvent très difficiles à obtenir, qui sont très concurrentiels. Et on va aller chercher comme ça, souvent on entend parler du CNC, des réformes du CNC. Mmh. Donc le CNC, c'est l'organisme financier principal français, donc national, qui a vocation à aider le cinéma, que ce soit du cinéma de court-métrage, de long-métrage ou de série. Et sur ce pilier national viennent s'appuyer tout un tas d'autres piliers régionaux ou même municipaux, puisqu'on a la chance d'avoir là, par exemple, l'Eurométropole de Strasbourg qui aide au financement de court-métrage, la région également. Et on a comme ça plusieurs régions en France qui ont vocation à aider le cinéma et à aider la culture. Alors ça, c'est une spécificité française. Rares sont les autres pays. Je prends par exemple le cas des États-Unis. Ça n'a absolument rien à voir. Donc les États-Unis ont une logique bien plus mercantile. On est là pour fabriquer des produits aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'un produit, c'est une notion péjorative. Hein. On peut avoir un très bon produit, un très bon film. Mais c'est des studios qui vont développer ça, qui vont injecter de l'argent, faire en sorte que ce projet soit rentable et gagner de l'argent et pouvoir produire d'autres projets. En France, on est sur une logique un petit peu différente, qui est cette sorte d'exception culturelle qu'on défend évidemment, avec donc ces piliers nationaux, régionaux et éventuellement municipaux qui vont avoir vocation à aider le cinéma. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer un projet. Donc là, on a maintenant une douzaine de longs-métrages qui sont finis, en cours ou à venir, hein, parce qu'on est à différents stades de développement sur nos projets. Et donc, ça fait qu'on a une petite quinzaine, vingtaine de personnes qui gravitent de façon très récurrente au sein du studio à travers différents métiers de l'animation.
Comment ça se passe au sein de la société pour savoir quel projet on prend Quel projet on ne prend pas ?
Alors, on a des choix éditoriaux. Effectivement, les choix éditoriaux des projets sur lesquels on va s'inscrire, c'est moi qui en prends la décision. Pas parce que j'ai pas envie de déléguer cette tâche, de loin pas. Si le studio est amené à se développer, j'aimerais bien avoir des producteurs ou productrices en interne qui développent leurs propres projets, mais tout simplement parce que pour l'instant, on est sur une économie qui est quand même relativement fragile, qui repose sur des fonds régionaux, sur des fonds nationaux, et on est en train de se développer. Pour nous, l'animation, c'est quelque chose de relativement récent. Faut voir qu'on a commencé à réellement faire de l'animation au sein du studio et à collaborer sur un premier projet de long métrage en 2012, okay. Qui a été primé à partir de l'année 2013 quand il est sorti. Et ayant cette jolie petite carte de visite, moi, j'ai décidé d'aller prospecter d'autres producteurs pour dire, bon, ben voilà, moi, j'ai développé un studio en région qui est en train de grandir. Faites-moi confiance, on va être capable de vous accompagner sur des projets. Pour l'instant, les choix éditoriaux qu'on fait sont la plupart du temps sur des thématiques relativement complexes. On vient chercher à faire des films. Nous, notre cible, et ce qu'on aime principalement travailler, parce qu'on parle de cible, c'est de l'ado adulte. On aime bien faire des séries qui vont déjà venir chercher un public à partir au moins de 13-14 ans. Donc, on est en train de finir une série qui s'appelle Les Mystères de Paris, qui est une adaptation d'un roman d'Eugène Sue, qu'on fait pour France Télévisions à Paris, qu'on fait pour le réseau des télévisions locales du Grand Est, qui est aussi un pilier. Au moment de la fusion des régions, on s'est retrouvé avec différentes chaînes locales qui ont eu l'intelligence de vouloir collaborer, de vouloir se mettre ensemble au sein de ce qui s'appelle le réseau des télévisions du Grand Est, et qui est cofinanceur de nombreux de nos projets. Donc s'ils n'étaient pas là, ce serait un petit peu compliqué de développer certains de nos projets. Donc c'est comme ça qu'on a une sorte de maillage, un tissu local de différents types d'acteurs, que ce soit des producteurs, des financeurs, beaucoup de techniciens évidemment, parce qu'on repose sur des gens qui savent manipuler les outils techniques. Donc, et ça, c'est en train de se développer d'année en année.
Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui est en train de monter un projet, un film, un court-métrage, un long, un docu, une série, peu importe, et qui aura envie, par exemple, de vous proposer son projet à vous ou à un autre producteur, quelles sont les erreurs à ne pas faire? Parce que j'imagine qu'il y a un dossier à faire, il y a une note d'intention, un projet à présenter. Et qu'est-ce qui fait mouche? Comment on fait mouche auprès d'un producteur pour avoir son soutien?
Alors, on va déjà distinguer par rapport à cette question deux typologie de projet. On va dire que la première, ça va être du court-métrage, ce qu'on va appeler, nous, dans notre jargon, du court-métrage live, hein, c'est-à-dire que c'est du court-métrage filmé. De notre côté, on travaille plus sur du court-métrage animé. Donc souvent, dans le court-métrage d'animation, je travaille avec des auteurs qui vont avoir tendance à venir d'écoles d'animation. Et ils vont déjà être capables de poser des concepts artistiques sur des mots. Ce qui est plus rare dans un documentaire ou dans un film en live, effectivement, c'est plus rare dans le sens où quand on fait un film en tant qu'auteur de film de live, on se retrouve à dire bon, bah voilà, j'ai envie de travailler un peu dans la veine de Scorsese ou de tel directeur de la photo ou de telle réalisatrice, j'ai envie d'être dans cette veine-là. Mais en gros, on ne reçoit qu'un scénario. Donc, il faut essayer d'imaginer un petit peu comme quand on lit un roman, j'ai pas les images, mais je me fais mon propre film. Donc, moi, personnellement, pour l'instant, je suis plus à lire des scénarios de courts-métrages d'animation. Donc, déjà, j'arrive à m'appuyer sur une base graphique. Donc, je vais déjà avoir une première approche visuelle en quelques secondes en me disant, bon, OK, ça m'intéresse ou pas. Et puis ensuite, je vais quand même lire l'ensemble des projets qui me sont soumis. Et les premières erreurs à ne pas commettre, c'est ne pas envoyer une bribe d'idées à un producteur. On a tous tendance à être bien occupés dans nos vies. Donc, je ne peux pas me permettre de lire quelqu'un qui me dit « Bon, ben voilà, j'ai ce projet, est-ce que ça pourrait vous intéresser ?» J'ai écrit quelques lignes comme ça sur le coin d'une table. Faut que ça soit un petit peu plus fouillé. Donc, en général, on passe... c'est déjà bien qu'il y ait une version 1 d'un scénario.
Et que ce soit abouti, quoi. Un projet abouti, déjà,
au minimum. Que ça commence à être pas forcément abouti, parce qu'il ne faut pas en demander trop, mais en tout cas, qu'il y ait... Effectivement, déjà un concept que ça dépasse un peu effectivement la bonne idée. La bonne idée peut être là dès le départ, mais une bonne idée se distille dans le temps, même si on parle d'un film de 15 minutes, et bien qu'on voit comment les personnages vont évoluer, qu'on ait de l'empathie pour eux, qu'on décide de s'y attacher ou pas. Et ça se lit dans un scénario. On est capable à ce moment-là de voir si les choses vont fonctionner ou pas.
Et donc, comment on devient directeur de studio? Est-ce que vous avez eu un déclic? Est-ce que vous êtes... passionné de cinéma, est-ce que vous fabriquez des choses dans votre chambre? Enfin, racontez-nous un peu comment on devient producteur comme ça.
Alors, mon passé.
Et d'animation en plus, parce qu'apparemment c'est très spécifique et important pour vous.
Alors, mon passé, effectivement, moi, j'ai toujours aimé le cinéma. J'ai principalement été bercé de cinéma américain étant gamin. Et j'avais surtout, d'ailleurs, une passion globale pour l'artisanat. C'est simple, à 14 ans, j'avais le choix entre faire ébéniste menuisier. J'avais essayé de faire charpentier également chez les Compagnons du Devoir. Et puis, je suivais en parallèlement, à partir de la seconde, une filière cinéma dans le lycée dans lequel j'étais. Donc, j'ai toujours aimé, effectivement, les choses artistiques. Alors, d'un côté, il y avait les métiers du bois, de l'autre, il y avait les métiers du cinéma. Mais finalement, on peut tout à fait les comparer. On est sur des choses où on est amené à fabriquer une œuvre à la fin. Et mon cœur a penché pour le cinéma. Donc, j'ai continué à suivre cette filière cinéma audiovisuel, qui était une option qu'on présentait au bac. Et pendant un an juste avant mon bac, je suis parti aux États-Unis pour continuer à travailler un petit peu dans la filière cinéma audiovisuel. Mais on ne parlait même pas d'animation à cette époque. Hein. C'était vraiment, je m'intéressais à faire des petits courts-métrages, des reportages, des petites choses comme ça. Et puis ensuite, j'ai fait un IUT à Haguenau. Je voulais pas partir de Strasbourg, je voulais rester ici pour différentes raisons et finalement je me suis dit allez, je vais apprendre le motion design en autodidacte. Okay, ouais. Faut voir que quand j'ai fait cette IUT à Haguenau en 99-2001, je suis sorti en septembre 2001. Donc j'ai suivi différents cours pendant ces deux ans, mais ça allait très largement du montage vidéo à du script, à du PHP, okay, à un peu de Photoshop ou un peu d'Illustrator. Donc c'était un brassage extrêmement large de différentes techniques qui allaient du web à l'audiovisuel. On ne parle pas de cinéma, mais vraiment de l'audiovisuel. Et au fur et à mesure, moi j'ai eu envie de voir comment effectivement me former à un métier. On n'entendait pas trop parler de ça à l'époque, maintenant on n'entend que ça, de motion design. Donc je devais être, il y a une vingtaine d'années, l'un des tout premiers motion designers à Strasbourg. Et au fur et à mesure, en faisant du motion design, je me suis fait repérer. Et puis je commençais à avoir un niveau tout à fait correct en termes de fabrication d'éléments graphiques animés, donc du motion design. Et c'est là qu'en 2011, il y a des producteurs de cinéma qui sont venus me voir en me proposant un premier long métrage pour faire du compositing sur leur long métrage et me demander de monter une équipe. Donc là, j'ai passé un casting sur Internet à cette époque-là en me disant « je vais chercher des gens qui vont travailler sur ce film de long-métrage, on va faire du compositing pendant plusieurs mois. » Et comme ça, plusieurs personnes m'ont répondu, dont certaines maintenant qui sont restées à Strasbourg, qui ont fait leur famille à Strasbourg, qui ont leurs enfants ici. Et c'était chouette parce que ça a permis de sédentariser un premier public de fabricants d'animation, de gens qui sont là pour justement faire vivre l'animation. Et au fur et à mesure, le studio a évolué d'année en année. Et puis maintenant... 8 ans plus tard, on arrive à être une quinzaine de façon relativement récurrente au studio et à travailler sur de nombreux projets de long-métrage, court-métrage ou autre. Donc on est plutôt satisfait de la trajectoire qu'on prend.
Et donc, on est là aussi pour parler du coup d'un événement particulier. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe en octobre pour Amopix et quel est le projet, où, quand, comment, comment on fait pour venir vous voir ? Racontez-nous.
Alors pour l'instant, on n'a pas encore exactement communiqué sur cet événement, mais vous allez être sans doute les premiers à en parler. Je pense qu'on va activer les choses à partir de la semaine prochaine. Donc dans le cadre du Festival du film fantastique européen de Strasbourg, on a décidé de faire une soirée spéciale qui sera mise à la programmation du festival, donc le vendredi 30 octobre à 20h au Cinéma Vox. Donc on va lancer des réservations via la page Facebook du festival et ça va permettre au public de venir découvrir différents projets, de parler avec nous, de nous voir et de nous poser un petit peu tout type de questions sur la fabrication. Ça peut aller des financements sur comment on fait pour dessiner, quelle école dans quelle école on peut aller, comment est-ce que je peux apprendre le cinéma. Donc on sera là pour dialoguer au moins une demi-heure, trois quarts d'heure avec les gens en fin de séance. Et on va proposer un programme d'une heure de deux courts-métrages. Un qu'on a produit et qu'on a fini de produire il y a un an et demi qui s'appelle Lola la patate vivante, qui dure 17 minutes et qui est un film de Leonid Chmelkov, qui est un vraiment très très bon réalisateur avec lequel on est en train de finir son deuxième court-métrage, avant pourquoi pas d'aller vers du long-métrage. Un auteur local qui s'appelle Michael Delalande et qui va présenter un film qui s'appelle Mesdemoiselles les Palourdes, qui s'insère parfaitement dans la thématique un peu noire du Festival du film fantastique. On va présenter 8 épisodes d'une série qui s'appelle Les Mystères de Paris, qui est une série... qui fait 40 fois 3 minutes. On va présenter 8 épisodes qu'on va sélectionner en disant que ça donnera un petit peu une vague idée de ce qu'est le projet. Et une petite surprise à la fin qui sera un petit teaser en fait, du nouveau film justement de Léonide, dont on commence à le présenter dans ce qu'on appelle des festivals de catégorie A, c'est-à-dire les plus grands festivals au monde, comme Berlin, pourquoi pas Cannes, Toronto ou d'autres festivals, afin d'essayer de le faire aller le plus haut possible d'un point de vue des prix en festival, parce que c'est aussi ça qu'on va chercher, forcément.
Ouais, bien sûr, ouais.
C'est des prix en festival. Son précédent film a dû gagner une trentaine de prix, faire une centaine de sélections. Donc, on espère faire au moins aussi bien, voire mieux.
Ok, donc ça, ce sera, vous m'avez dit, le 30...
Vendredi 30 octobre, à 20h au Cinéma Vox. Donc on a réservé pour l'instant la salle 1, en espérant avoir effectivement beaucoup de monde. Et on verra ce qui se passe avec la crise sanitaire qu'on traverse actuellement et si on n'aura finalement qu'un siège sur deux ou pas.
Mais du coup, vu qu'on lance un peu le sujet, comment vous avez vécu, vous, cette crise sanitaire inédite qui s'est passée ? Est-ce que vous êtes un gros consommateur de cinéma en tant que personne, en tant que spectateur ? Et du coup, est-ce que ça vous a changé quelque chose ? Ou alors, pas du tout ? Et dans votre activité aussi, vous disiez que c'était un peu plus facile en animation, mais est-ce que quand même il y a eu un impact financier ou personnel sur tout ça ?
Alors, pour répondre à la première question, est-ce que je suis un gros consommateur de cinéma ? Je connais des gens qui consomment évidemment bien plus de cinéma que moi, mais je m'intéresse à tout. Donc, j'ai tendance à concrètement passer de Vimeo, où on fait des découvertes fabuleuses. D'ailleurs, j'ai découvert par hasard une auteure qu'on cherche à produire sur Vimeo, qui est une Française, qui a fait des très belles études et qui a un style graphique admirable, qui ensuite est passée par le Royal College of London, et du coup qu'on essaye de produire en ce moment, pour un très joli futur film, j'espère, à Netflix, concrètement. Il y a quelques années, j'entendais une émission de radio nationale qui disait... Netflix, ça prendra pas en France. Et bon, on voit que ça a plutôt bien
erreur
pris.
Erreur fatale, ouais.
Donc moi, j'ai tendance à être effectivement consommateur de plateformes. J'ai deux abonnements, concrètement, à des plateformes. Donc c'est vrai que je vais beaucoup l'utiliser. Je vais aussi beaucoup utiliser les plateformes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, changement de vie oblige, j'ai deux petits garçons. Donc j'ai beaucoup, beaucoup moins le temps d'aller au cinéma, comme je le faisais régulièrement avec moi. Avant, on pouvait y aller chaque semaine et on y allait chaque semaine à se faire quelques soirées cinéma. Ça, pour l'instant, je n'y arrive plus. Donc, je découvre des films en festival. Je découvre d'ailleurs plus de films maintenant que les festivals sont passés en numérique qu'en me rendant dans certains festivals, ce qui peut paraître un peu absurde. En général, quand on est en festival, on en profite pour être avec les amis producteurs, parler des projets qu'on va initier. En général, on a un peu moins de temps pour aller voir des heures et des heures de séances. Donc, j'ai aussi des abonnements sur, par exemple, Bref Cinéma, qui est une super plateforme qui permet de voir du court-métrage, tout type de court-métrage, que ce soit du live ou de l'animation. Donc, en gros, je cherche à concrètement m'imbiber de tout. En fait, tout ce que je vois, mais vraiment de façon très, très large, sur très petit écran. Ça va du téléphone au très grand écran, évidemment. Donc, j'ai la chance de mémoriser pas mal de choses que je vois à l'écran, de me trouver des références, d'être capable de les recommuniquer à mes équipes en me disant bah, « Tiens, j'ai vu ça ». Et on a aussi dimensionné nos studios pour justement avoir une salle qui nous permet de se projeter des choses et de se dire bah, « Tiens, j'ai vu ça, j'ai telle référence, bah, moi j'ai ci, moi j'ai ça ». C'est hyper important, en fait, la notion de partage dans ce qu'on, dans ce qu'on fait. Donc, moi, je me note beaucoup de choses. Je mets beaucoup de petits signets sur Internet en me disant bah, « Tiens, ça, j'ai liké ça, ceci, je vais l'utiliser pour tel autre projet, etc. » Donc, en gros, ouais, j'essaye de m'imbiber de tout ce que je vois.
Mais du coup, pas de grand changement sur votre consommation de salles de cinéma avec ce qui s'est passé ?
Bah non. Là, forcément, avec ce qui s'est passé, en fait, on a souscrit à des nouveaux abonnements sur Internet. Ce qui est d'ailleurs un peu absurde, parce que comme d'habitude, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est les plus gros. Donc voilà, effectivement, quand on voit les bons qu'on fait Netflix, Amazon, Disney ou les commandes Apple, effectivement, ça c'est ces géants du GAFA qu'on critique très fréquemment et finalement qu'on consomme en premier. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue parfois dans notre système. Mais finalement, on a aussi besoin de ce type de plateforme, nous, pour produire. J'aimerais bien, demain, produire avec Netflix. J'aimerais bien produire avec d'autres plateformes. On voit que ces plateformes s'intéressent à des œuvres de cinéma. Je vais par exemple vous citer le cas d'une œuvre de cinéma rare, qui est un film de Jérémy Clapin. Peu de gens l'ont vu, ce film, mais ça s'appelle « J'ai perdu mon corps », qui est un film
magnifique,
absolument exceptionnel. Magnifique, ouais. Et on parle d'un film, on s'en fiche qu'il soit fait en animation. En fait, c'est un film, c'est une œuvre, et qui est importante de voir, qui a fait Cannes, qui a gagné 2 prix sur 3 au Festival d'Annecy, et que Netflix a repéré. J'ai tout fait pour avoir ce film en région. J'ai évidemment dialogué avec les producteurs que je connais, mais malheureusement, ils étaient sur un modèle économique qui ne permettait pas de s'appuyer sur une nouvelle région. Donc, j'avais vu ce qu'on appelle des early steps of development, ouais. Donc vraiment des toutes premières étapes de développement sur le projet. On regardait les animatiques au studio en se disant « Oh, c'est fabuleux, ça va être une merveille ». J'étais persuadé, vraiment, il y a 5 ans, que ce film irait aux Oscars. Il y allait, malheureusement, il n'a pas gagné d'Oscar, mais il y allait. Netflix a tout fait pour le pousser tout en haut. Et ils ont eu raison. Et vraiment, je félicite le réalisateur et le producteur qui ont eu le courage de faire ce genre de projet, de faire ce genre d'œuvre nécessaire. Il y a un public ado, il y a un public adulte. Le cinéma, il y a des pays encore en Europe ou ailleurs dans le monde, qui ont tendance à dire que le cinéma d'animation, c'est pour les gamins. Oui, le cinéma d'animation, c'est pour les gamins, mais pas que. Donc, il faut un peu sortir des sentiers battus et puis un petit peu oser des choses nouvelles. Je pense que J'ai perdu mon corps l'a prouvé, d'autres vont le prouver.
Il y a eu quand même pas mal de films d'animation, entre gros guillemets, pour adultes, qui ont quand même prouvé que... Je pense notamment à Persepolis, par exemple, ou je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre qui avait adapté une BD aussi sur les guerres en Iran, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais il y a eu quand même des films...
Valsa avec Bachir.
Voilà, c'est ça, exactement. Valsa avec Bachir qui a vachement marché. On a eu l'année dernière à Cannes aussi Les Hirondelles de Kaboul. Enfin, il y a eu énormément quand même, enfin énormément. Tout est relatif, moi j'en consomme beaucoup, donc ça me paraît beaucoup. Mais je trouve qu'il y a quand même eu beaucoup de films qui ont eu la chance d'être distribués sur le grand public, qui montre que clairement l'animation au cinéma, c'est pas que Disney, Pixar et tout ça. Et même ces gens-là ont réussi à faire des choses qui, je pense notamment, d'ailleurs je crois que c'est lui qui a eu l'Oscar, le dernier Spider-Man New Generation, qui est à mon sens incroyable. Et en fait, je l'ai trouvé vachement plus pour adultes au final que pour des gamins, parce qu'il est hyper profond, il est hyper visuel, il est hyper beau. Donc je pense qu'il y a quand même énormément de choses qui ont prouvé que l'animation, c'est aussi une manière de raconter des choses et pas juste d'emmener les enfants au cinéma le mercredi, quoi.
Bah, le cinéma a la chance, et même l'art en général, de pouvoir proposer un spectre et une énorme variété de projets. Donc ce qui est intéressant, c'est effectivement... Enfin, moi, je peux être consommateur de gros blockbusters, parce que bon, bah, ce soir-là, tiens, j'aurais eu envie de voir un gros blockbuster. Et le lendemain, ou juste après, bah, je peux avoir envie de regarder un film beaucoup plus intimiste, beaucoup plus... c'est pas qu'il sera plus profond, mais c'est juste qu'il essaiera de parler de thématiques d'une autre façon, dans des budgets qui vont être certes bien moindres, mais on va se retrouver avec deux œuvres. Les deux ne sont pas antinomiques, on peut faire l'un et l'autre. Et c'est ça, par contre, c'est vraiment important d'essayer de conserver cette faculté de pouvoir continuer à créer, de ne pas formater les choses. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant dans l'animation. Et c'est peut-être pour ça qu'on cherche à en faire beaucoup. C'est parce que chaque projet qu'on fait est fondamentalement, d'un point de vue même technique et esthétique, différent de l'autre.
Oui.
On a vraiment des œuvres singulières qu'on... C'est pas du tout, il faut surtout pas le prendre comme ça, une critique envers le cinéma live, mais le cinéma live se résume, et c'est vraiment pas péjoratif, pas que ce soit interprété comme ça, on sort une caméra et on filme. Après, il va y avoir une façon de réaliser, une façon de placer sa caméra, une façon de placer ses lumières, une façon de diriger ses acteurs, qui va faire que c'est un très bon film, ou un film, bien sûr, ouais. Un film raté. D'ailleurs, je consomme énormément de films en live et je regarde évidemment pas que des films d'animation. Mais en gros, le principe reste de poser et de sortir une caméra. En animation, vous pouvez animer des grains de sable, vous pouvez faire du stop motion, vous pouvez faire bouger des morceaux de papier, vous pouvez faire de la peinture animée, vous pouvez faire ce qui s'appelle de la pixie, vous pouvez faire de l'animation 2D, tradi numérique, c'est-à-dire sur ordinateur, vous pouvez faire du dessin. Bref, chaque réalisateur ou réalisatrice d'animation qui va être derrière un projet d'animation va venir insuffler son univers artistique. Ce qui fait qu'on retrouve des films singuliers et vraiment souvent différents les uns des autres.
Pour finir sur cet épisode, est-ce que il y a un film, et du coup je vais vous piéger un peu et parler d'un film d'animation. Est-ce qu'il y a un film d'animation qui vous a vraiment marqué et dont vous aurez envie de conseiller le visionnage à nos auditeurs?
Alors moi je vais prendre forcément un vieux film, mais alors qui mélange d'ailleurs les deux, puisqu'on a du live et qu'on a de l'animation. Il y a un film que je trouve extraordinaire, c'est Roger Rabbit.
À ta santé.
Non merci, Eddie, je freine l'alcool.
Bois ce verre.
Mais je ne veux pas de ce verre.
Il ne veut pas de ce verre. Il veut.
Je veux pas.
Tu veux.
Je veux pas.
Tu veux.
Je veux pas.
Tu veux.
Je veux pas.
Tu veux pas.
Je veux.
Tu veux pas.
Je veux.
Tu veux pas.
Écoute, quand je dis je veux, ça veut dire je veux.
Ce film, ça peut être surprenant comme réponse. On pourrait s'attendre à un film d'auteur. Ben non, en fait, Robert Zemeckis, c'est pour moi un réalisateur exceptionnel qui a fait des œuvres, peu importe, il ne s'est pas dit, tiens, je vais utiliser la technique d'animation, la technique de live. C'est un film que je trouve absolument génialissime, que je me réjouis de faire découvrir à mes gamins, parce que je trouve ça extrêmement drôle, parce que je trouve que ça n'a pas pris une ride. D'un point de vue technique, la prouesse, faut quand même voir que des films comme ça, quand on sait, nous, maintenant, le temps que ça prend de faire des films d'animation, ce que ces génies du cinéma ont dû enfoncer comme porte pour rendre ça possible, imaginer les techniques, c'est absolument exceptionnel. Il faut se rendre compte d'une chose, on n'en parle jamais d'ailleurs en cinéma, en animation, la plupart du temps, on produit environ 2 secondes d'animation par jour. Donc quand vous faites un film qui fait 80 minutes, et ben faites la division du nombre de jours pour arriver à faire vivre un film d'animation. Donc là, ils ont dû, à l'époque, faire tourner ce film, puis animer, puis faire les effets visuels et tout ça. Donc moi, c'est un film qui me fait mourir de rire et que je trouve absolument génial.
Eh bien, regardez Roger Rabbit. Je pense qu'on est beaucoup à connaître déjà, mais je pense que le redécouvrir vous fera pas de mal. Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu, d'être venu dans cet épisode de Écran Local. On vous mettra toutes les informations sur cette fameuse soirée du 30 octobre au Cinéma Vox. De toute façon, dès que les billets seront en ligne. Et on vous encourage fortement à aller découvrir ce que le studio Amopix fait. Et bah, du coup, vous serez là, il me semble, pour discuter avec eux ou...
Oh oui, on sera là. Voilà. On sera là. Il y aura évidemment une grande partie de l'équipe du studio. Donc, c'est sûr qu'on prendra déjà un rang dans la salle. Et puis, il y aura... on va voir si la réalisatrice des Mystères de Paris sera en capacité de venir ou pas ce soir-là. Il y aura Michael Delalande qui sera là, qui va présenter en avant-première. C'est vraiment la toute première fois que le film sera projeté.
D'accord.
Donc, c'est vraiment un peu notre film qu'on met en avant ce soir-là. C'est un film de 12 minutes qu'on a porté avec lui pendant de nombreuses années, dont on est très content de venir le présenter au public. C'est son premier film et effectivement, je pense qu'il faut venir l'encourager. Il a fait un très bon travail. Je pense que tout le monde là-dessus est content de ce projet. On y a versé quelques gouttes de sueur, on y a mis tout plein d'énergie. En tout cas, on sera ravis, et je pense, lui, le premier, d'en débattre avec le public ce soir-là. Donc, évidemment, Michael sera là, je serai là, et pas mal d'autres personnes du studio, si on a vraiment des questions très précises. Et en étant une quinzaine de personnes, on sera aussi capable de répondre, chacun ayant quelque part un petit peu son bagage culturel ou son bagage d'un point de vue des écoles. Nous, on a beaucoup de questions sur quelles sont les formations à suivre. On pourra répondre à toutes ces questions-là.
Eh bien, du coup, rendez-vous le vendredi 30 octobre au Cinéma Vox. On vous mettra toutes les informations à barre d'infos du podcast. N'hésitez pas à le partager et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci encore, Mathieu.
Merci à vous.
À bientôt.